Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Les piqûres de moustiques peuvent être bénignes ou transmettre des maladies parfois graves comme le paludisme ou la fièvre jaune. Pour vous protéger, pensez à vous faire vacciner, à prendre un traitement préventif et utiliser des mesures de protection locale. Les maladies transmises par ces insectes touchent plusieurs centaines de millions de personnes par an, Nadir.
En effet, Issa, selon l'Organisation mondiale de la santé, le moustique est l'animal le plus meurtrier pour l'homme, avec plus de 830 000 victimes par an. Nous en parlons ce matin avec nos invités. Tout d'abord, le professeur Stéphane Jauregui-Berry. Bonjour. Bonjour, merci d'être présent sur le plateau d'Africa Radio. Vous travaillez au sein du service des maladies infectieuses et médecine tropicale à l'hôpital universitaire de Bicêtre, en région parisienne, membre de l'APHP. Professeur Sandrine Houzé, bonjour.
Bonjour,
merci d'être présente et d'intervenir en direct ce matin. Vous travaillez au Centre National de Référence du Paludisme de l'hôpital Bichat, APHP, et de l'unité Mérite de l'Université de Paris. Et nous rejoint depuis Abidjan le docteur Anomarin. Bonjour docteur.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être présent ce matin également. Vous êtes directeur de l'espace médical La Pyramide à Abidjan.
Alors on va commencer avec vous, professeur Stéphane Jauregui-Berry. Alors quelles sont les maladies causées par les moustiques en France ?
Ah, en France, en France, alors finalement très peu, mais avant de parler de la France, je pense qu'il faut effectivement rappeler que le moustique, différents types de moustiques peuvent transmettre effectivement un certain nombre de maladies, et à mon avis, on va surtout parler, je pense, du paludisme aujourd'hui, et puis une grande famille aussi de pathogènes pour l'homme, hein, c'est-à-dire de maladies pour l'homme, ce qu'on appelle les arboviroses, hein, qui sont des virus transmis par des moustiques et qui comptent pour des milliers chaque année de malades à l'échelle mondiale. Alors en France, on a certains de ces moustiques qui peuvent transmettre des arboviroses, on n'a pas les moustiques qui peuvent transmettre le paludisme en France, mais on a les moustiques qui peuvent transmettre certaines arboviroses, et on a bien sûr une inquiétude sur la possibilité d'apparition de cas liés à la dengue, hein, les arbovirus les plus connus, hein, c'est la dengue, le chikungunya, le virus Zika, qui peuvent apparaître sur le territoire national. Et effectivement, depuis quelques années, chaque année, vous avez quelques cas dits autochtones, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas voyagé en zone de haute circulation d'arbovirus, et qui malgré tout font la maladie. En France, alors qu'ils n'ont pas voyagé, ils ont été piqués par des moustiques localement et font la maladie. Et on se rend compte à chaque fois qu'ils ont été en fait pas loin, proches d'un voyageur par contre, qui lui est revenu d'une zone où il avait attrapé la dengue par exemple, il a été malade en France, a été piqué par un moustique sur le territoire français, et ce moustique a été piqué un voisin de quartier, finalement, qui lui va faire la maladie, mais cette personne n'a pas voyagé, ce qu'on appelle un cas autochtone. Et ça, clairement, c'est une inquiétude, parce que avec les modifications climatiques et les années qui viennent, d'ores et déjà, à Aedes, hein, le fameux moustique tigre est implanté, hein, dans quasiment une soixantaine de départements français, et dans les années à venir, on craint une possibilité, en fait, de transmission très quotidienne, en fait, de ces arbovirus, qui pour l'instant sont quand même cantonnés aux zones tropicales de par le monde. Donc oui, c'est une maladie sous surveillance, ce sont des maladies sous surveillance, parce qu'il y a un risque potentiel d'arriver de ces maladies en France et d'une pérennisation de transmission.
Alors, professeur Sandrine Houzé, comment les moustiques transmettent les maladies ?
Eh bien, les moustiques sont hébergés l'agent pathogène le plus souvent au niveau de leur glande salivaire, après avoir s'être contaminé sur un hôte qui est lui-même malade. Donc, pour ce qui est du paludisme, qui est la maladie que je vais connaître le mieux, le moustique se nourrit sur le sang d'un patient qui présente un accès palustre. Il va ainsi pouvoir avaler, entre guillemets, le parasite. Celui-ci va se développer chez le moustique et après un certain temps, environ peut-être quinzaine de jours en moyenne, le moustique va pouvoir, lors d'un nouveau repas sanguin, pouvoir injecter les parasites en même temps que sa salive chez un nouveau patient. Donc il faut savoir que les moustiques femelles uniquement ont besoin de prendre du sang pour pouvoir faciliter la ponte de leurs œufs. et c'est pourquoi ces moustiques sont nos ennemis, puisqu'ils vont venir régulièrement se nourrir sur nous, soit au cours de la journée, pour certaines espèces, pour certains genres de moustiques, soit la nuit, notamment pour ce qui concerne le moustique qui transmet le paludisme.
Alors, professeur Jory Guibéry, Sandrine Houzé a parlé de moustiques femelles, donc il y a plusieurs types de moustiques, tous ne sont pas dangereux, mais d'après ce qu'on entend, ce sont les femelles qui seraient les plus dangereuses, c'est cela ?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le professeur Houzé rappelait que le paludisme est transmis par les anopheles femelles, en fait, qui piquent plutôt le soir ou la nuit, hein. Contrairement à d'autres...
Les anopheles, c'est une variété de...
Oui, c'est ça, bien sûr. Et au sein des anopheles, vous avez plusieurs dizaines de sous-espèces, en fait, de moustiques, avec des capacités vectorielles variables. Mais effectivement, donc ça, ce sont des moustiques qui piquent plutôt la nuit et qui transmettent le paludisme. Les moustiques des arboviroses, au contraire, sont plutôt des moustiques. Alors, c'est une autre famille de moustiques, hein, c'est plutôt les Aedes et les Culex, qui... Alors, les Aedes piquent plutôt la journée. Donc, ce sont en fait des... Au fil du jour et de la nuit, finalement, on est exposé à différents types de risques.
Est-il dangereux de se faire piquer par un moustique tigre, professeur Stéphane Jury-Guibert ?
Alors, en France, j'ai envie de dire non, mais encore une fois, c'est sous surveillance, puisque nous avons effectivement des Aedes dits albopictus, hein, c'est le nom savant pour moustique tigre, en France, hein, qui sont à l'état bien installés dans une soixantaine de départements. Et à part la nuisance causée par la piqûre, il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir. Néanmoins, si des symptômes évocateurs de dengue, par exemple, devaient survenir dans les jours qui suivent, il faut bien sûr aller consulter tout de suite, parce que si le diagnostic est confirmé, on aurait affaire à un cas, on va dire, autochtone, hein, si la personne n'a pas voyagé. Après, si la personne revient de voyage, hein, c'est la circonstance la plus fréquente, hein, de diagnostic de la dengue, par exemple. C'est quelqu'un qui revient de voyage. Alors, depuis un an, il n'y a pas eu beaucoup de voyages, mais enfin, ça va revenir. Et puis, il y a une épidémie un petit peu en ce moment dans certaines îles. Donc, voilà, revient de voyage, il est malade, le diagnostic est fait. Et donc là, il y aura une inquiétude, on va dire, dans le quartier où vit la personne, puisque les moustiques, hein, vivent quelques jours et circulent, hein, de l'ordre de 50 à 100 mètres, ça dépend un peu des espèces, mais autour du foyer de la personne, et donc peuvent piquer une personne qui n'a pas voyagé, et cette personne peut faire la maladie. Donc en France, j'ai envie de dire aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir, mais ce sont des maladies sous surveillance, parce que on commence à avoir un peu les ingrédients potentiels, pas encore, hein, mais potentiels, d'une endémisation, de l'apparition de la maladie, d'une installation de ce type de maladie en France.
Alors, on parlait de la France, direction le continent africain, avec la Côte d'Ivoire. Docteur Anomarin, donc on parle bien sûr du paludisme, mais quelles sont les autres principales maladies causées par les moustiques en Côte d'Ivoire ? Docteur Anomarin.
Allô ?
Oui, docteur Anomarin, on vous écoute.
Voilà, vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Alors, nous avons le paludisme, effectivement, qui est la principale maladie causée par le moustique, mais nous avions aussi les autres arboviroses dont parlait tout de suite le professeur Stéphane, la dengue, la fièvre jaune, par exemple.
Et parmi ces maladies, donc il y a le paludisme, hein, et la fièvre jaune, est-ce que ces maladies sont très présentes en Côte d'Ivoire, docteur Anomarin ?
Oui, le paludisme est très présent en Côte d'Ivoire, que ce soit en zone rurale, en zone urbaine, sur tout le territoire. Et la fièvre jaune, elle existe, mais avec la bonne couverture vaccinale. Nous la rencontrons de moins en moins, mais il n'y a pas si longtemps, nous avions eu quand même une épidémie de fièvre jaune en Côte d'Ivoire.
Et qui sont les personnes les plus touchées, docteur Anomarin, notamment par le paludisme ?
Alors, par le paludisme, je dirais que toutes les personnes, tous les âges, tous les sexes confondus sont les plus touchés. Mais c'est les personnes qui vont faire les formes les plus graves, les plus compliquées, c'est-à-dire les enfants en bas âge qui, après l'immunité passive auprès de leur mère, ils n'ont le temps d'instituer leur immunité acquise peut faire des formes graves. Ce sont les femmes enceintes, du fait de la grossesse, qui ont le système immunitaire qui est fragilisé. Ce sont les personnes qui portent déjà d'autres maladies virales, entre autres le VIH, par exemple. Ce sont les voyageurs qui viennent des pays où n'existe pas le paludisme, donc ils n'ont pas d'immunité. Et c'est ce genre de personnes-là qui feront les formes les plus graves.
En 2019, on estime à 229 millions le nombre de cas de paludisme dans le monde, selon l'OMS. MAMS, Yaya est militant associatif, hein, effectuant plusieurs voyages entre la France et le continent africain. Il a été touché par le paludisme. On écoute son témoignage.
Moi, c'est vrai que j'ai été touché à deux reprises, personnellement, parce que j'ai eu le palu pendant que je faisais un film documentaire dans la région de Kaï, et j'ai dû être rapatrié donc sur l'hôpital. Et surtout, il y a plus de 10 ans aussi, j'ai eu une sœur qui est décédée de cette maladie, et voilà. Et donc, forcément, ça m'a touché. Voilà, ça m'a amené quelque chose, ça a amené une réflexion. Pourquoi qu'est-ce que c'est comme maladie D'ailleurs, je connaissais pas du tout. Est-ce que c'est une maladie imaginaire, etc. Parce que nous, voilà, étant en France, en allant de manière occasionnelle en Afrique, ça a diminué de penser ça. Et je pense que arrivant ici, en posant des questions, et tout le monde, comme moi, était hyper naïf vis-à-vis du moustique. Et c'est là qu'on a commencé à prendre conscience, moi et les gens qui étaient autour de moi, que finalement, c'était un fléau ravageur. Et c'était un fléau qui tuait plus d'un million de personnes. Donc forcément, et c'est toutes ces réflexions qui nous ont emmenés aux différents événements qu'on a pu créer. Alors, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est simple, faites attention. Vous savez, le moustique, il vous attend au tournant. Donc, quand vous allez au pays, faites attention, protégez-vous, prenez des moustiquaires surtout avec vous, prenez vos médicaments si vous devez les prendre, et ne prenez pas les choses à la légère. C'est pas parce que vous allez à Bamako, que vous roulez dans une voiture climatisée, ou à Dakar, vous êtes dans une maison climatisée, etc., que forcément, ça va pas vous atteindre. Bah, le fait que, au moment où vous allez sortir de votre voiture climatisée, ou votre maison climatisée pour aller au resto, pour aller à la plage, bah, il vous attendra à ce moment-là, parce que lui, il a tout le temps.
C'est le témoignage de Mams Yaffa, militant associatif. La situation est d'autant plus préoccupante que depuis plusieurs années, les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques et les moustiques craignent de moins en moins les insecticides. Aujourd'hui, aucun vaccin n'est disponible. Je propose d'écouter ces témoignages recueillis auprès de la diaspora africaine à Paris.
Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, effectivement, j'ai contracté du palu pendant mon enfance jusqu'à ce que je vienne en Europe. Mais depuis, lorsque j'y vais, ben, par précaution, j'ai un traitement préventif sur moi. Je suis plutôt épargné pour l'instant.
Le palu, c'est une maladie provoquée par le moustique, surtout en Afrique, qui quand il aspire ton sang, te lâche une maladie. Ce qui peut donner suite à des vomissements, des maux de tête, perte de poids, fièvre et autres. Voilà le palu. Je voyage souvent, je prends tous les médicaments qu'il faut parce que je suis déjà tombé malade et j'ai déjà eu le palu en Côte d'Ivoire en 2007. C'était très grave. C'est pour ça maintenant quand je vais en Côte d'Ivoire par rapport à ça, je viens avec mes propres médicaments contre le palu.
J'ai 30 ans. Quand je rentre chez moi au pays, je prends les médicaments. Je fais les vaccins avant de rentrer chez moi au pays. J'ai jamais eu le palu. Parce que je prends souvent mes médicaments, donc c'est normal.
Oui, j'ai contracté le palu quand j'étais en Côte d'Ivoire. La dernière fois, c'était en 2010 peut-être. En y vivant, il n'y a pas besoin de faire de la prévention. Donc, c'est récurrent quand on vit en Afrique. Donc, voilà.
Ce sont des témoignages recueillis auprès de la diaspora africaine à Paris. Alors, docteur Sandrine Ouzé, quelles sont les conséquences du paludisme ?
Donc, la symptomatologie d'un paludisme, c'est d'abord de donner un accès fébrile. Ce qu'on entend dans les témoignages que vous avez recueillis sont, il y a deux types, hein. Le dernier, un témoignage qui rapporte que sa sœur est décédée du paludisme, ce qui prouve la gravité potentielle de la maladie. Et puis, à contrario, vous avez une jeune femme qui répond, oh, bah, le paludisme, on l'attrape en Afrique, au pays, c'est pas grave, c'est à peine de se prémunir. Donc là, les messages sont contradictoires, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le paludisme, ça peut tuer. C'est pas une maladie bénigne. Et même si on peut l'attraper fréquemment au pays, même au pays, on peut décéder du paludisme. Et surtout, quand on est en France ensuite, on va faire moins d'accès palustre. Et par conséquent, on devient plus fragile vis-à-vis du risque de décès du paludisme et de faire une forme grave. Et c'est ce qu'on observe de plus en plus en France. Et on déplore de plus en plus d'accès graves, donc de maladies potentiellement mortelles, chez les patients qui sont originaires du pays, qui retournent au pays, qui ne prennent pas forcément de précautions quand ils sont sur place, parce qu'ils estiment que c'est une maladie qui est courante là-bas et qu'en fait... Eh bien, ils sont comme leur famille qui est restée sur place. Or, en fait, depuis qu'ils sont venus en France, ils ont perdu une partie de la protection vis-à-vis de cette maladie.
Professeur Jory Guibéry, quels sont les signes de paludisme grave? Comment sait-on qu'on a été...
L'accès palustre débute en fait par des symptômes assez classiques de syndrome grippal. Hein. C'est bien ça tout le problème, c'est que ça ressemble un peu à rien et à tout. C'est-à-dire des troubles digestifs, des maux de tête, de la fièvre bien évidemment, des douleurs articulaires, musculaires, bref, on n'est pas bien. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à tout moment, et on ne sait pas prévoir en fait, quelle personne va juste faire un accès palustre simple finalement, ou évoluer très rapidement vers un accès grave. À titre individuel, on ne sait pas le prévoir. C'est pour ça que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, ouais. Et qu'il faut aller tout de suite consulter, faire le diagnostic et prendre le bon traitement. L'accès grave, en fait, correspond, sans entrer trop dans les détails, mais correspond en fait à une défaillance des différents organes liés aux globules rouges qui sont infectés par le parasite, qui vont en fait ce qu'on appelle séquestrer, qui vont s'accrocher en fait dans les vaisseaux profonds des organes, et tous les organes peuvent être touchés, entraînant la défaillance de l'organe. Donc bien sûr le cerveau, la rate, le foie, le tube digestif, les reins, les poumons, etc. Les érythrocytes infectés, enfin les globules rouges infectés par le parasite, vont s'accrocher et entraîner la dysfonction de l'organe, et bien sûr cela peut mener au décès.
Alors, professeur Jory Guibéry, peut-on être contaminé plusieurs fois ou acquiert-on une immunité après avoir été contaminé une première fois?
Alors, c'est un petit peu le point qu'abordait le professeur Houzé, c'est qu'effectivement, quand on naît en zone d'endémie, qu'on est exposé très tôt à la maladie, d'abord dans les premiers mois de vie protégé par les anticorps maternels, et puis petit à petit, si on survit aux différentes infections, on va acquérir ce qu'on appelle une prémunition, c'est-à-dire une protection partielle, parce que c'est un parasite qui est très compliqué, enfin pour lequel il est très compliqué d'avoir une protection complète, comme pour d'autres infections, où on fait une fois l'infection et après on ne peut plus attraper l'infection. Le palu, c'est pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup de variétés en fait de paludisme, et donc on acquiert ce qu'on appelle une prémunition, donc une protection partielle, qui tant qu'elle est entretenue, on va dire, par des infections récidivantes en vivant en Afrique, bah on acquiert une espèce d'équilibre avec son parasite, et puis ça se passe pas trop trop mal. Dès qu'on quitte les zones, forcément on est beaucoup moins piqué, et on n'est plus en contact avec le parasite, et on perd cette prémunition, et on redevient tout à fait sensible à l'infection. C'est ce que Madame Houzé disait. Typiquement, la personne qui vit en France, qui retourne l'été voir la famille, ça fait plusieurs années qu'il travaille en France, en fait il a perdu cette protection, il se croit protégé, mais pas du tout. Et donc il retourne au pays, il va voir la famille, comme il faisait avant, 10 ou 15 ans auparavant, quand il vivait au pays. Et en fait, non, là, il peut tout à fait attraper la maladie.
Professeur Houzé, comment soigne-t-on le paludisme aujourd'hui?
Donc, on a des médicaments qui sont très actifs, ce qu'on appelle les ACT ou les CTA, sinon ce qu'on dit l'acronyme anglais ou français, en fait, qui sont des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, qui permettent sur un traitement sur 3 jours de guérir du paludisme. Ces médicaments sont disponibles en France sur prescription médicale et en Afrique en fonction des réglementations locales sur la distribution des médicaments pharmaceutiques. Ce qu'il faut bien se souvenir, c'est qu'il faut prendre les 3 jours complets, qu'il faut bien respecter les modalités de prise, c'est-à-dire soit au cours du repas, soit en dehors du repas, en fonction du traitement, soit une fois par jour, soit 2 fois par jour, et que si jamais on vomit une des doses, il faut reprendre le traitement selon les recommandations de son médecin. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir accès rapidement à ces traitements. Et donc, comme l'a rappelé le professeur Jory Guibéry, les signes du paludisme ne sont pas spécifiques. Et que quand on revient d'un pays d'endémie ou quand on a de la fièvre, il faut rapidement aller voir son médecin traitant, lui signifier qu'on revient d'un pays avec un risque d'avoir le paludisme pour que le traitement puisse être mis en place rapidement si nécessaire.
Oui, parce que paradoxalement, c'est une maladie qui tue énormément, mais le diagnostic en est très facile. Simplement, il faut y penser. Le voyageur doit, si le médecin ne lui pose pas la question, ce qui arrive malheureusement trop souvent, mais enfin, si le médecin ne lui pose pas la question d'un voyage récent, il faut que le voyageur malade dise « je reviens d'un pays lointain.
Ouais.
Et en fait, dès qu'on évoque le diagnostic, le diagnostic est, le test diagnostique est facile à faire et le diagnostic est fait facilement. Mmh. Donc c'est un peu paradoxal le poids de cette maladie par rapport à la facilité de la mise en évidence finalement de la maladie.
Professeur Jérémy Guibéry, est-ce que le paludisme est contagieux ?
Non, pas au sens de transmission de personne à personne. Après, c'est sûr qu'un sang infecté par la transfusion sanguine, par exemple, peut potentiellement transmettre le parasite. Après, les poches sont testées et c'est absolument exceptionnel. Le paludisme transfusionnel est quand même très rare.
Alors, on va retourner à Abidjan. Docteur Anneau Marin, est-ce que les médicaments pour soigner le paludisme sont facilement accessibles et comment se passe la prévention également sur place?
Alors, effectivement, comme je le disais, c'est le premier motif de consultation des maladies infectieuses dont les médicaments sont accessibles. Il en existe dans les centres hospitaliers publics comme dans les officines privées. Donc c'est facile d'accès. Lorsqu'on fait le diagnostic et qu'on prescrit, on peut s'en procurer facilement. La prévention, elle se fait d'abord de manière collective et ensuite de manière individuelle. Il y a deux modes, c'est-à-dire la prévention contre le parasite, qui est le plus agressif, c'est le Plasmodium falciparum. Il y a deux autres espèces qu'on rencontre en Côte d'Ivoire, le Plasmodium ovale, malarié et puis vivax. Donc ça, c'est la lutte contre le parasite, et puis il y a la lutte contre le vecteur, c'est-à-dire le moustique qui transmet la maladie, surtout la femelle, l'anophèle. Et cette lutte aussi, elle est d'abord collective au niveau de toutes les zones de retenue d'eau, et en zone urbaine, et les piscines, les flaques d'eau dans les jardins et tout ça, c'est l'hygiène environnementale. Et puis en zone urbaine, c'est vraiment curer toutes les rizières, les bas-fonds, les lieux de travail de certaines cultures. Et après, il y a des mesures individuelles, la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action, il y a les insecticides, il y a d'autres, par exemple les diffuseurs électriques, les répulsifs anti-moustiques, il y a des crèmes et puis il y a des grilles électriques pour se faire piquer. Et comme disait le professeur, en fonction des heures de piqûre, au moment de la journée, c'est vraiment se protéger. Et puis, il y a le fait que la couleur sombre est attirée par ces moustiques-là et certaines odeurs. Donc, il y a tout un mécanisme de prévention qui, vraiment, il faut y penser. Et puis, il y a la prévention aussi chimique, par exemple chez les femmes enceintes, lorsqu'il y a la prévention au cours de la grossesse par certains médicaments qu'on donne pour éviter de faire des formes graves de paludisme.
Vous venez de le dire, hein, la prévention est importante, notamment pour les voyageurs qui doivent se rendre sur le continent africain. Écoutez ces sketchs réalisés par la Radio Africaine en partenariat avec Santé Publique France.
Toi qui repars au pays, j'espère que tu as pris tes précautions contre le paludisme.
Mais tu m'as pris pour un touriste ou quoi? Je suis l'enfant du pays.
Et alors?
Et alors, ça veut dire que je n'ai pas besoin de prendre des précautions contre le palu, car le palu lui-même, il sait qu'il ne pourra pas m'atteindre.
Ah, c'est ce que tu dis. Est-ce que tu sais que chaque jour, le palu terrasse des gaillards nés et vivants au pays? Un gringalet comme toi, là. Tu vis ici en Europe, tu vas aller le défier?
Ce n'est pas un défi, puisqu'il n'y aura même pas de combat.
Ah bah effectivement, il n'y aura pas de combat, mon pote, parce que tu seras déjà KO technique avant même de monter sur le ring.
Ce n'est pas parce qu'on vient d'Afrique qu'on est protégé contre le paludisme. Avant tout retour au pays, il est indispensable d'aller voir un médecin pour bénéficier du traitement qui vous protégera, vous et vos proches.
Alors, professeur Sandrine Houzet, quel conseil donneriez-vous à ceux qui vont voyager dans des pays où le risque de paludisme est élevé, notamment sur le continent africain ?
Donc, comme l'a signalé le message d'information et qu'on a dit tout à l'heure, il faut notamment prendre des médicaments préventifs qui sont soit la doxycycline, soit la tovaquone proguanil, soit la mefloquine, qui sont prescrits après consultation médicale. Il faudra les prendre pendant tout le séjour, puis un temps après le retour, entre une semaine et quatre semaines en fonction du médicament qui aura été prescrit. Il est important de bien respecter cette durée de traitement. Et puis, il faudra éventuellement aussi dormir sous moustiquaire, idéalement une moustiquaire imprégnée. Et quand on est à l'extérieur, à partir du tomber de la nuit et tôt le matin, bien utiliser des répulsifs sur la peau découverte ou porter des vêtements couvrants pour se protéger des piqûres de moustiques, ces vêtements pouvant être imbibés d'insecticides qui vont en même temps associer deux moyens de prévention. D'une part, le vêtement qui protège de la piqûre et d'autre part, l'effet insecticide qui va tuer le moustique qui va se poser sur le vêtement. Il faut rappeler que ces vêtements doivent être plutôt amples parce que sinon, le moustique peut nous piquer à travers le vêtement qui va être collé sur la peau.
Est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre pour les enfants et les bébés ?
Alors les bébés, il est recommandé de les laisser sous moustiquaire, de mettre une moustiquaire sur le berceau, le couffin, pendant à la fois la journée et la nuit, autant que faire se peut. Et puis pour les enfants, à partir dès que possible, on pourra leur donner également la prophylaxie médicamenteuse. Et quand ils ne dormiront pas sous moustiquaire, s'ils sont vraiment exposés, soit le soir, soit la journée, en fonction du risque local, on pourra leur mettre du répulsif. Mais les répulsifs utilisés doivent être adaptés à l'âge de l'enfant. Et le nombre de doses à poser sur la peau est également limité en fonction de l'âge de l'enfant. Et pour les très jeunes enfants, on va se limiter à une application par jour et avec des concentrations faibles en produits chimiques. Il faut rappeler que les répulsifs chimiques ont une efficacité qui a été démontrée en laboratoire vis-à-vis des moustiques qui vont transmettre soit le paludisme, soit la fièvre jaune, soit la dengue ou le chikungunya. À la différence, et pendant un temps suffisamment long pour nous protéger sur quasiment toute la nuit ou toute la journée, à la différence des produits dits naturels, tels que par exemple l'essence de géranium ou l'essence de lavande, dont l'efficacité est exacte, mais qui est pendant une très courte durée, environ 20 minutes. Donc ce qu'il faudrait, remettre ce badigeonner d'essence de lavande ou d'essence de géranium toutes les 20 minutes pour vraiment être protégé avec ces produits. Et de même pour tout ce qui est bracelet anti-moustique, il faut savoir que l'efficacité de ce bracelet, elle ne s'opère que pour 1 cm de chaque côté du bracelet. Donc en fait, il n'y a que votre poignet qui est protégé vis-à-vis des piqûres de moustiques. Tout le reste de votre corps est exposé aux piqûres.
Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Merci professeur Stéphane Jory-Guibéry. Je rappelle que vous venez du service des maladies infectieuses et médecine tropicale à l'hôpital universitaire de Bicêtre à PHP. Merci à vous professeur Sandrine Ouzé du Centre national de référence du paludisme de l'hôpital Bichat à PHP et unité Mérite Université de Paris. Et merci à vous également docteur Anoma. Je rappelle que vous êtes directeur de l'espace médical La Pyramide à Abidjan. Cette émission, vous pourrez la télécharger sur les réseaux de la radio africaine dans quelques heures. Merci à tous. On marque la pause, on se retrouve pour Ambiance Africa dans un instant. Bougez pas.